Europe 1, il est 20h. Et enfin, un point sur l'actualité. Sophie Tussaud, bonsoir.
Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe met fin au suspense. Il ne sera pas candidat à la présidentielle. Il assure que son soutien sera complet à Emmanuel Macron. Actualité très politique ce dimanche. Anne Hidalgo, elle, est officiellement candidate à la présidentielle. La maire de Paris s'est lancée dans la course à l'Élysée ce matin lors d'un discours prononcé à Rouen. Elle affirme se présenter pour bâtir une France plus juste. Marine Le Pen, elle, a donné le la de sa campagne pour la présidentielle. Présidentielle qui sera un choix de civilisation, a-t-elle déclaré dans un discours prononcé à Fréjus dans le Var. La présidente du Front du Rassemblement National qui a officiellement passé la main à Jordan Bardella, le numéro 2 du parti, et ce afin de se consacrer pleinement à 2022. Un hélicoptère de la sécurité civile s'est écrasé en fin de journée en Isère, près de Villard-de-Lans. 5 personnes étaient à bord. L'une d'entre elles est décédée. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore connues. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, se rendra sur place demain. La campagne de vaccination pour la troisième dose contre le Covid-19 débute demain. Coup d'envoi donné pour les plus de 65 ans dans les EHPAD. Leur appel pourra être effectué à condition que la dernière injection date d'au moins 6 mois. Mercredi, ce seront tous les personnels de santé qui devront être vaccinés. 2,7 millions de personnes concernées. Tous les salariés des hôpitaux et des maisons de retraite qui n'auront pas reçu une première dose pourront être suspendues sans rémunération. À compter de demain, les échanges ou remboursements de dernière minute des billets SNCF ne seront plus possibles. La SNCF qui supprime cet assouplissement mis en place depuis le début de la crise sanitaire. Elle repasse à un dispositif à J-3. Le pape François était en Hongrie aujourd'hui en clôture de sa visite éclair à Budapest. Il a appelé les Hongrois à s'ouvrir aux autres. Un appel après avoir rencontré le dirigeant souverainiste Viktor Orban et après avoir évoqué la menace de l'antisémitisme. Le tennis, cet événement exceptionnel attendu dans la soirée. Tous les yeux seront rivés vers l'US Open. Novak Djokovic affronte en finale le russe Daniil Medvedev pour le titre. En 4 victoires, le Serbe pourrait réussir le grand chelem calendaire et porter à 21 le record de tournoi majeur décroché par un joueur. Soirée spéciale à suivre sur Europe 1 dès 22h. En football, suite et fin de la 5e journée de Ligue 1, Nice s'est imposé à Nantes 2-0 et prend la 4e place au classement. Dernière rencontre de cette journée à 20h45 avec Lyon-Strasbourg. Et puis en Formule 1, ce spectaculaire accrochage qui a eu lieu cet après-midi lors du Grand Prix d'Italie. Max Verstappen et Lewis Hamilton se sont percutés sur le circuit de Monza. Les deux voitures se sont retrouvées l'une sur l'autre et les pilotes ont dû abandonner la course. C'est finalement l'Australien Daniel Ricciardo qui a remporté le Grand Prix sur McLaren. À la suite de cet accident, Max Verstappen, le leader du championnat, sera pénalisé de 3 places sur la grille de départ au prochain Grand Prix le 26 septembre en Russie.
Europe 1.
Il est 20h03 sur Europe 1 et tout de suite, c'est votre soirée sportive.
Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel plaisir de vous retrouver le vendredi, le samedi, le dimanche. Et ce dimanche soir, c'est une soirée exceptionnelle avec du foot, bien sûr. Notre match aujourd'hui, on va en parler avec Lyon-Strasbourg et nos envoyés spéciaux et le tennis. L'événement de Djoko, la nuit de Djoko et la finale de l'US Open. Djokovic qui peut évidemment rentrer dans l'histoire et obtenir 21 titres majeurs et également réussir le Grand Chelem calendaire, c'est-à-dire les 4 tournois du Grand Chelem, dont l'US Open. On va vivre ça pleinement jusqu'au bout de la nuit, hein. C'est-à-dire que si ça part en 5-7, on sera là pour vous accompagner avec notre dispositif exceptionnel. On vous en reparlera, mais Jean-François Pérez et Cédric Pioline aux commentaires, Antoine Beneteau également en studio avec nous. On sera à New York avec Antoine Blancharel, à l'US Open, à Flushing bien sûr, et puis à Belgrade, Axel May, où les Serbes sont en folie pour suivre l'événement Djokovic qui est un véritable héros national. Voilà donc pour cette belle soirée qui va démarrer à 21h30 au cœur du foot, hein. Bien sûr, on ne l'oublie pas, puis c'est après, à partir de 23h, intégrale tennis, intégrale Djoko. Mais le foot, bien sûr, c'est Lyon-Strasbourg. On vous en parle dans quelques instants. Notre invité foot également, on aura plaisir à recevoir Gervais Martel dans quelques instants. Et puis, la tactique de jeu de l'OM qui est en question, même si l'OM s'est imposé 2-0 hier face à Monaco. On va l'évoquer avec nos experts. Et le Paris Saint-Germain qui sera mercredi face à Bruges en Ligue des Champions avec peut-être la MNM, on l'espère. Toutes les informations et toutes les analyses avec nos invités, nos experts. Jimmy Algerino, bonsoir.
Bonsoir.
On est ravi de vous accueillir, mon cher Jimmy.
Moi, je suis ravi
avec
d'être
votre
là,
éternel calepin. Et on est ravi. On se demande d'ailleurs ce que vous écrivez dessus, mais on ne veut pas le savoir. Restez tel que vous êtes. Il y a également avec nous Grégory Schneider de Libération. Bonsoir Grégory.
Bonsoir messieurs, dames.
Merci d'être avec nous et Javier Prieto Santos de SoFoot. Salut Javier.
Salut Lionel, bonsoir à toutes et tous.
Toute l'équipe est là. Voilà, on est ensemble jusqu'à 23h pour le foot et après le tennis, on va basculer jusqu'à lundi matin. S'il faut aller jusqu'à 5h, 6h pour la petite matinale avec Djokovic, hein, si ça se prolonge, pourquoi pas. Eh bien, nous serons là. On vous accompagne. Nous avons des litres de café à notre disposition. Mais d'abord, le foot avec ce match Lyon-Strasbourg. Et on va retrouver nos envoyés spéciaux Pascal Auclair et Anthony Perel. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Lionel. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce Groupama Stadium qui s'est rempli doucement. On attend environ 30 000 spectateurs ce soir dans l'enceinte lyonnaise pour le retour de l'Olympique Lyonnais après une dernière prestation frustrante. C'était face à Clermont, un 3-3 arraché par les Auvergnats dans les dernières minutes. Et évidemment, on attend une réaction lyonnaise. On l'a eu déjà à Nantes, même si tout n'a pas été flamboyant. On va voir ce soir ce que ça va donner face à cette formation de Strasbourg. Il y avait pas mal d'incertitudes dans la composition lyonnaise avant le coup d'envoi. On va lever ces incertitudes puisqu'on a la composition d'équipe au coup d'envoi. Alors on va rappeler qu'il y a la suspension de Da Silva derrière, il y a aussi les blessures de Dubois et Kadewere, et puis il y avait les retours également de Paqueta et Guimaraes de sélection. Ils avaient joué il y a 48 heures seulement et c'est vrai qu'on ne savait pas trop bien s'ils allaient pouvoir tenir leur place. Ça nous donne donc une composition d'équipe suivante avec Lopez dans les buts, derrière Emerson, Deneyer, Diomande et Gusto, un milieu de terrain composé de Guimaraes donc qui est titularisé, associé à Thiago Mendes, et puis devant on va retrouver Toko Ekambi, Aouar et Shaqiri dont c'est la première apparition évidemment sous le maillot lyonnais. On en attend beaucoup du Suisse, et devant en pointe Dembélé.
Tous les sports et sur Europe 1. Tout à l'heure, participez au jeu match Winamax sur Europe 1 et tentez de gagner 30 euros pour parier. Inscription au 39-21, 50 centimes la minute. Règlement et conditions sur europe1.fr. Winamax, les meilleurs cotes. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Europe 1. Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
Europe 1 Sport, jusqu'à 23h pour le foot et un petit peu de tennis, puis après on bascule vraiment dans l'histoire tennis et la nuit de Joko. On est ravis de vous accompagner pour cet événement historique. Je sais que vous êtes des fans, des passionnés de sport avec nous. Javier Prieto Santos, Grégory Schneider, Jimmy Algerino, bien sûr. Et notre invité exceptionnel ce soir, c'est Gervais Martel. Bonsoir Gervais Martel.
Bonsoir tout le monde.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous entendre. Figure du football emblématique, évidemment, Gervais Martel. Et on va parler foot en général, la Ligue 1, l'observateur que vous êtes, l'expert également. Mais je ne résiste pas à vous demander des nouvelles de votre club de toujours, votre club de cœur, en tout cas le Racing Club de Lens, qui va bien. Je sais que vous savez que le Racing a gagné contre Bordeaux 3-2 aujourd'hui. C'est un bon début de saison. J'imagine que ça vous met en joie, Gervais Martel.
Ah ouais, c'est même mieux que ça, parce que figurez-vous, et les grands spécialistes qui sont avec vous l'auront noté, on fait un début de saison comparable à 2002. Ça veut dire qu'on est invaincu, on a le même nombre de points, et en 2002, vous vous rappelez, tout le monde se rappelle, on a fait deuxième derrière Lyon. Donc on a encore une prestation très convaincante aujourd'hui, en menant 2-0, être rattrapé à 2-2, et avoir le mental pour aller arracher cette victoire. Donc vraiment, on est en pleine bourre, comme dit l'autre. Et en plus, samedi arrive notre voisin préféré, le LOSC, qu'on va battre d'ailleurs, je vous l'annonce déjà.
D'accord.
Samedi prochain, et ça va se passer comme ça. Voilà.
C'est noté. Alors, c'est vrai que le LOSC n'est pas en grande forme en ce moment, donc en effet, votre pronostic ou votre vœu, Gervais Martel, vont peut-être se réaliser.
Et mon vœu.
C'est réalisé, oui. Non, mais ça, j'en suis sûr. Non, ce qui est bien, c'est que je note, c'est que vous dites... quand on parle du Racing Club de Lens, même si vous n'avez plus de fonction officielle en tout cas au Racing Club de Lens aujourd'hui, c'est encore votre club, vous êtes encore dans la maison quoi.
Bah, écoutez, vous savez que quand moi j'ai assisté au premier match de Lens, j'avais 4 ans, vous vous rendez compte, 1958, donc ça remonte quand même quelques temps, donc qu'on soit président, qu'on soit supporter, quand on aime ce club, on l'aime à vie quoi, donc... Évidemment que j'ai suivi le match contre Bordeaux aujourd'hui et que j'étais super content, même si ça a été un peu difficile dans les dernières minutes. Mais bon, une victoire qui méritait quand même dans le jeu. C'est une équipe qui recule pas, c'est une équipe qui joue vers l'avant, c'est une équipe qui a un effectif très bien composé. On n'a pas de faiblesse, ça veut dire que même si on a des absents comme Doucouré, par exemple, depuis deux matchs, l'équipe reste pareille. On joue vers l'avant, on a un coach qui donne des principes de jeu, qui nous donne un peu, je dirais, de bonheur dans le football qui quelquefois est compliqué. Et moi, je suis évidemment super content.
Et c'est vrai que Lens ne se départit pas de sa tradition, c'est-à-dire le travail, bien sûr, l'atmosphère du public qui revient, ça c'est génial, Gervais Martel, mais aussi l'effectif. Voilà, il n'y a pas d'excès, mais on arrive à avoir des résultats avec une stratégie plutôt sensée, plutôt mesurée. On est vraiment sur les rails, effectivement, de 2002, comme vous l'avez dit, mais de la tradition lensoise, quand Lens est en Ligue 1.
On est dans les rails parce que à tous les niveaux du club, d'abord, on a un président actionnaire qui répond aux difficultés du foot moderne. Ça veut dire qu'il paye de sa personne de manière concrète. Et on a derrière des gens comme, je pense à Florent Gisolfi, qui est directeur sportif, qui fait un gros boulot. Et écoutez, sur le recrutement, les départs, je vois pas d'erreur depuis deux ans. Donc j'espère que ça va continuer. J'espère que le club n'aura pas de blessures. Parce qu'on est toujours à la merci sur un championnat qui est long. On n'est qu'au début. Mais enfin, Lens, aujourd'hui, est invaincu. Et c'est mérité. Donc, on est à notre place. Et ça peut être la surprise de la saison.
C'est-à-dire au point de jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine ?
Bah, écoutez, l'année dernière, il nous a manqué un point pour la jouer. Donc, cette année, on a une équipe qui me semble plus forte que la saison précédente. Après, difficile de faire des pronostics à moyen terme. Mais sur ce que j'ai vu sur le début de saison, sur ce que j'ai vu à Bollard, même si on a été accroché deux fois par Saint-Etienne et Lorient, on a une équipe capable de finir dans les six premiers.
L'an cinquième actuellement au classement. Grégory Schneider, une question pour Gervais
Martel.
Oui,
bonjour Gervais. Bonjour.
Bonjour.
On a quand même l'impression, en regardant les matchs, qu'il y a quelques joueurs qui sont très, très, très importants. Je pense à Seko Fofana, bien sûr, ouais. Qui a quand même une classe autre. Mais Jonathan Clauss, aujourd'hui, on a quand même vu que c'est de la balistique sur les coups de pied arrêtés ou
et
sur les centres.
Et qui mériterait peut-être d'être appelé en équipe de France à un poste clé chez les Bleus.
Et au-delà de ça, Kakuta, on a l'impression qu'il ne faut pas que l'un de ces trois-là soit pas sur le terrain, sans rien enlever aux autres, parce qu'il n'y a rien à dire, c'est quand même du niveau. Mais on a quand même l'impression que le jour où Seko Fofana ou Clauss ne sont pas là, ce serait plus compliqué, non ?
Vous partagez ce sentiment,
Gervais Martel ? Oui, ça peut être vrai ce que tu dis, Greg. Maintenant, j'ai l'impression que Fofana, il est dans une condition physique hors du commun. Je suis même étonné qu'un joueur comme ça, étant mieux pour nous, soit resté à Lens à l'intersaison. J'ai l'impression qu'il y a quelques mecs qui devraient aller chez un Fleu Loup pour regarder les matchs. parce que pour moi, c'est un des meilleurs milieux du championnat français à son poste. Donc un box-to-box comme vous le connaissez, qui est infatigable. Mais bon, c'est vrai qu'il peut y avoir quelques difficultés si des joueurs sont un peu en perte de vitesse. Mais encore une fois, il y a des joueurs, j'ai parlé de Doucouré tout à l'heure, qui est aussi une révélation depuis deux ans, qui n'était pas là aujourd'hui. Ganago, qui n'était pas là aujourd'hui. Il y a vraiment du potentiel dans cette équipe. Et c'est une équipe de copains, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vois quand je vais à la Gaillette et qu'on me parle un petit peu du club. Et ça, c'est des signes qui sont forts quand même.
Concrètement, Gervais Martel, ça se déroule comment votre relation avec le club aujourd'hui ? Vous dites que de temps en temps,
super.
Je vais à la Gaillette, vous allez au stade.
Non,
mais
super.
Voilà. Mais j'imagine, vous êtes extrêmement populaire, vous êtes le président emblématique de ce club, vous l'avez porté à bout de bras et plus encore. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous rendez au stade, vous vous rendez à la Gaillette, vous allez voir éventuellement les dirigeants comme ça, de manière très simple, détendue et amicale.
Ah oui, soit je vais voir les dirigeants, soit je vais discuter avec Arnaud Pouille, soit je discute pas mal avec Joseph Audourian quand il est dispo et qu'il a envie de parler avec moi, ouais. Moi, j'ai l'impression que je n'ai jamais quitté le club. Je suis dans une position qui est différente et c'est tant mieux. Je ne suis plus dans l'opérationnel, donc je laisse travailler les gens. Je ne suis pas sans arrêt à être caché dans un coin du stade pour dire coucou, je suis présent. Non, non, je suis passé à autre chose dans ma vie. Mais évidemment, je reste supporter numéro un de mon club. Ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, quand on quitte un club, quelqu'un d'autre arrive, on est super content quand ça marche bien, d'autant plus que je m'entends bien avec Joseph, et c'est moi qui l'ai rencontré là-bas dans ses bureaux à Londres pour l'inciter à venir. Donc c'est super. Imaginez-vous que si j'avais ramené un âne, je serais triste aujourd'hui et beaucoup de gens m'en voudraient, ce n'est pas le cas. Et c'est tant mieux, ça fait partie de la continuité, on n'est pas éternel. Il y a d'autres gens qui arrivent, qui apportent une autre dynamique, qui apportent d'autres idées, qui apportent aussi peut-être des ambitions retrouvées, choses qu'on avait perdues par la malheureusement par les difficultés qu'on a vues dans les dernières années. Donc écoutez, tout va bien au soleil.
Et l'adrénaline, ça vous manque pas? L'adrénaline de la présidence d'un grand club, la compète, les matchs, les après-matchs, Gervais, non?
Non, je vais vous faire une confidence. Écoutez, le football a dirigé ma vie pendant 30 ans. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige ma vie directement. Donc ça, c'est que du bonheur et ça me laisse le temps d'être avec des amis comme Greg à l'équipe TV.
oui, c'est vrai, vous êtes consultant à la chaîne L'Équipe.
Et d'aller voir, les matchs de Lens, évidemment, en étant supporter, mais en étant beaucoup moins stressé quand on n'a pas la responsabilité financière, parce que je peux vous garantir que les 3-4 dernières années, c'était terrible. Quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, tout va bien, et le club marche bien. Écoutez, que demander de plus?
Vous avez une très grande expérience du foot de haut niveau, évidemment, par rapport à ce que vous avez fait avec Lens, Gervais Martel, et j'aimerais avoir votre regard aujourd'hui sur la Ligue 1, le foot français, avec toute l'évolution qu'il y a pu avoir, le contexte sanitaire aussi, le public qui revient dans les stades, et l'arrivée au Paris Saint-Germain de joueurs majeurs, dont on n'imaginait même pas la possibilité de les voir un jour porter le maillot d'un club français. Vous voyez, je parlais de Messi notamment, qui arrive au Paris Saint-Germain. Cette évolution, est-ce qu'elle va dans le bon sens pour vous? Est-ce que ce n'est pas trop excessif? Est-ce que c'est bien pour le foot français que vous avez toujours adoré et défendu, Gervais Martel?
C'est un football qui est différent, évidemment, par rapport à mon époque. L'histoire de Lens, championne en 98, ou de Nantes ou de Montpellier, bon, ça va être très très compliqué pour que ça puisse se reproduire. Mais d'un autre côté, on est dans des moments de mondialisation. Donc, soit on n'accepte pas ça, soit on s'occupe de clubs de bowling ou de fléchettes. Et j'ai beaucoup de respect, d'ailleurs, pour les gens qui jouent fléchettes et au bowling. Mais à partir de là, vous savez, avoir Messi dans le championnat avec Neymar et Mbappé, c'est quand même extraordinaire. Moi, j'ai des copains, je téléphonais à un copain qui est à Milan, qui me disait « Quelle chance que tu as, ici, la Juve, c'est en perdition, on n'a plus de grands joueurs, on a perdu Ronaldo, vous avez récupéré Messi. » Écoutez, moi, je trouve que c'est top. Après, les gens peuvent avoir deux façons de voir les choses, en disant « Ouais, c'est pas normal, c'est PSG, etc. » Mais si Paris gagne la Champions League, on sera tous derrière Paris. Et derrière, c'est bien aussi qu'il y ait des clubs qui vont se révéler comme Nice, parce qu'il y a un propriétaire qui est en train de faire son développement et de mettre beaucoup d'argent. Donc moi, je me réjouis de tout ça. C'est un peu plus compliqué pour les clubs dits moyens, mais il peut encore y avoir des surprises sur une année. J'espère qu'elle sera lensoise.
On espère aussi avec vous de tout cœur, parce que déjà, on a beaucoup d'amitié, de sympathie pour le club lensois, mais aussi pour vous, Gervais Martel. Donc rien que ça, si ça peut vous faire plaisir et si ça peut vous rendre service, on souhaite que Lens aille très loin cette saison. Merci infiniment,
merci
Gervais,
beaucoup.
En tout cas,
bonne soirée à tout
d'être
monde.
Venu sur Europe 1 ce soir. À très bientôt. Grégory Schneider vous salue. Il vous donne rendez-vous sur les plateaux de la chaîne Équipe très prochainement. Il est assez impatient de débattre et d'en découdre avec vous sur le foot. 20h18 sur Europe 1. D'autres débats à venir, justement, avec Grégory Schneider, Javier Prieto Santos et Jimmy Algerino. Dans un instant, nous parlons de l'OM et de sa tactique. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une tactique de jeu à Marseille? Je vous poserai la question dans un instant.
Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
La grande soirée sport, la nuit sport sur Europe 1 ce dimanche. Le foot, bien sûr, avec notre match à partir de 21h entre Lyon et Strasbourg. Les grands débats. Et puis après, la nuit de Djokovic avec la finale de l'US Open face à Medvedev et le record peut-être des 21 titres majeurs pour le Serbe. Je le dis, je le redis, hein, je le martèle, mais on va vous accompagner pendant des heures aujourd'hui, sachez-le. Avec Jimmy Algerino aussi qui va rester, j'en suis persuadé, Grégory Schneider et Javier Prieto Santos. Javier, il ne savait pas qu'il allait rester jusqu'à 3h du matin avec nous, mais prévenez votre famille, mon cher Javier.
C'est ce que j'ai fait. J'ai prévenu ma femme.
Vous envoyez
mon fils,
un petit message.
Mon frère.
Non, on sera rejoint tout à l'heure par Cédric Pioline, par Antoine Beneteau, par Jean-François Pérez, rassurez-vous, pour la partie tennis. On en reste sur le foot. Belle victoire de l'Olympique de Marseille qui monte sur le podium 2-0 hier contre Monaco tout de même. C'est vraiment une vraie performance. Mais il y a un fil rouge qui nous a accompagnés lors de la rencontre que l'on suivait hier sur Europe 1, Grégory Schneider. C'était la tactique de l'OM qui n'existe pas. C'est-à-dire que Marc Libra était là, notamment, et on se disait, mais les gars jouent pas à leur poste, un coup il y en a un qui est à droite, un coup il y en a un qui est à gauche. Enfin, c'est une espèce de hurra football ou de foot de cours d'école, alors qui fonctionne, en effet, là, pour le coup. Mais on a l'impression qu'il n'y a pas de philosophie.
Il y a quand même une philosophie, en tout cas vu de l'extérieur. Pour les détails, Libra, qui était footballeur professionnel, est plus apte que moi de voir les agencements entre lignes et tout. Mais quand même, au niveau course,
au niveau volume énergétique et au niveau intention, ça, ça reste assez clair quand même. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de courir plus que l'adversaire. C'est plutôt de mettre des démolisseurs dans l'axe. Alors, je m'interrogeais à ça, puisque que ce soit Gay, Camara ou Guendouzi, il n'y a pas un génie du football là-dedans. Mais tu mets des démolisseurs dans l'axe et tu crées du jeu sur les côtés. Un peu aride qu'ils ont fait venir, mais j'aimerais avoir quelques garanties sur ce qu'il est.
Bah,
et par contre, sur les côtés, tu as des joueurs de ballon qui font d'énormes différences, notamment le Turc, des joueurs beaucoup plus fins. Donc on a une espèce de répartition des rôles qui existe. On a, alors, il y a quelque chose aussi qui me fascine.
Non, mais dans l'improvisation, Grégory, quand
non,
même.
Mais,
la répartition
non, parce que
des rôles, d'accord, mais c'est fais un peu ce que tu veux, défends, attaque. De l'ensemble.
Mais
de
non,
l'ensemble.
Mais, parce que c'est pas tellement, parce que c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on leur dit de faire que ce qui les anime, en fait. C'est pas tant le... Alors, il les place quand même d'une certaine manière, enfin, je suppose. Mais, par exemple, il veut jouer à 11. Alors, ça a l'air de rien, mais il veut un gardien qui joue au pied. Donc, Mandanda, exit hier. Il veut pas d'avant-centre. Parce que je peux vous dire que même quand Milik va... Il sait très bien, tout le monde sait très bien que Milik en a encore pour X temps. Il le savait dès le mois d'août. Vous pouvez retrouver ses déclats en conférence de presse. Donc, mais c'est pas grave, il veut pas d'avant-centre. Il veut jouer sur 11 mecs, il veut compacter. Il y a quand même des choses qui se... Il y a quand même des lignes de force, je trouve, qui se détachent et qui me paraissent. Moi, autrement plus net que dans une bonne moitié des équipes de Ligue 1.
Alors on va creuser, c'est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vraie mentalité à Marseille, une vraie animation d'esprit, quoi, une force d'esprit véhiculée par l'entraîneur.
Une communauté d'esprit. Voilà.
Ça fonctionne, mais est-ce que ça peut durer déjà sur le long terme? Et puis, c'est très énergivore, ça c'est une certitude. Jimmy Algerino, le footballeur que vous êtes et que vous restez, a-t-il le sentiment que la tactique de jeu de l'OM en est vraiment une?
Pour moi, pour le moment, la seule tactique, c'est la grinta. C'est le souhait. Mais je crois qu'il a vu l'année dernière en arrivant ce qui était un petit peu le club, l'équipe, les carences et aussi les bons côtés. Parce qu'on sentait l'année dernière déjà qu'il y avait il pouvait y avoir une grinta sur certains matchs, surtout au milieu, au niveau de la récup et tout ça. Donc je pense qu'il a exacerbé tout ça. Il propose ça aujourd'hui à ses joueurs. Et pour le moment, il lui rend bien et les résultats sont là. Après, c'est sûr que tactiquement, face à des gros, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et puis surtout, pour aller loin et s'assurer peut-être avoir un petit matelas de sécurité, là, il ne va pas y en avoir.
C'est ça, Javier Prieto Santos. Est-ce qu'il y a, avec son Paoli, un vrai projet de jeu? Au-delà de la grinta, au-delà de faire le sémaphore, de s'agiter dans tous les sens, d'essayer mais de motiver les joueurs. Et ça marche en plus.
Mais c'est à son
ça
image, marche en plus. Je trouve.
Pardon?
Enfin, l'équipe est à son image.
À son image, oui, c'est ça.
On a l'impression qu'il s'étouffe sur le banc, qu'il est toujours désespéré, qu'il s'énerve, qu'il s'agace. Et en fait, l'OM est vivant. Moi, je trouve que... Alors effectivement,
il n'est pas numéro un du Football Manager, on est d'accord.
Non, c'est pas Johan Cruyff, c'est pas.
Il n'était pas.
Sacchi, c'est même pas Bielsa d'ailleurs. On l'a souvent comparé. Et moi, j'ai toujours dit que c'était un fan, mais c'était pas un apôtre de Bielsa. Mais je trouve que tout à l'heure, vous avez employé le mot philosophie. Mais moi, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup d'identité dans cet OM. Et pour moi, l'identité de jeu, on la reconnaît. On reconnaît Marseille. On change les maillots. Et puis, vous allez reconnaître que c'est Marseille, parce que dans l'intensité, c'est fou, parce que les déséquilibres, j'ai l'impression qu'ils sont voulus. C'est quelque chose... on a l'impression qu'ils veulent étouffer psychologiquement et physiquement l'adversaire. Hier, Monaco, ils ont complètement perdu les pédales. Défensivement, ils n'y étaient pas. Mais après, effectivement, si Monaco avait été un peu plus intelligent, s'ils balançaient des longs ballons, la défense à trois marseillaise galérait souvent, toujours d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est voulu.
C'est une folie contrôlée.
C'est exactement.
Ou une improvisation préparée.
C'est un match de boxe. Moi, j'ai l'impression que quand je vois l'OM, c'est un match de boxe. Tu vas me frapper, mais je vais te frapper encore plus fort. Et c'est ça qui rend les matchs aussi excitants, je trouve.
Alors ça, d'accord. Mais dans un match de boxe où je te frappe et je vais frapper encore plus fort, on peut se prendre un KO, on peut prendre un uppercut, Grégory Schneider. Et sur la longueur, est-ce que ça peut durer sur la longueur d'une saison?
Mais là, je rejoins quand même, c'est très important ce qu'a dit Javier. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire le match, et ils le savent, avec le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Tu le sais, tu es au courant.
Okay.
Donc, si tu ne peux pas être plus fort, tu peux peut-être être plus vivant. Et c'est là où Bielsa avait fait un tabac quand il a pris. C'est-à-dire qu'ils étaient plus vivants, ils étaient plus intenses. En 2018, ils ont une équipe. Mais c'est la finale de Ligue Europa. C'est-à-dire que le PSG était quand même rincé depuis 3 mois. Ils étaient quand même dans leur pénate européenne, tandis qu'eux, ils faisaient les ouvertures des journaux télévisés. C'est-à-dire que ce club a jusqu'ici toujours su
malgré des limites, et là, financières qui sont nettes, puisque maintenant, le foot, c'est l'argent. On ne peut pas non plus, le talent se paye, c'est comme ça que ça marche. Mais malgré ça, ils arrivent à trouver un espèce de chemin, une espèce de trouée, pour en permanence faire le match médiatique ou faire le match sentimental avec la terre entière. Et là, je trouve qu'au moins, indépendamment de tout ce qu'on peut... Ils retrouvent ça. Et ils ont retrouvé ça en quoi ? Ils ont retrouvé ça en 3 semaines quand même. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, une bouteille de flotte de Sampaoli balancée sur le 4e arbitre, Alvero qui se fait traiter de connard parce qu'il ne change pas assez vite, le cirque sur Payet, sur le Niçois, et on y est. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'œil du cyclone. Ils ont ce génie de savoir vivre dans l'œil du cyclone en permanence. Bah, ça, franchement.
C'est pas un acteur de seconde zone, l'OM, ça, c'est sûr.
Non, voilà, c'est un premier rôle.
Oui, mais ça, justement, je pose la question de Jimmy Algerino. Est-ce que cet état d'esprit qu'on est en train de dépeindre, et donc cette tactique, ou ce bordel organisé, passez-moi l'expression.
Oui, il y a de ça.
Est-ce que ce n'est possible folie. Qu'à Marseille ? Non, mais c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait adapter exactement le même entraîneur avec le même effectif et la même folie ? En effet, cette folie contrôlée, comme vous le disiez si bien tout à l'heure, à Nantes, à Strasbourg, à Lyon.
À Lens ? On pourrait le faire à Lens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le public.
Mais pas partout.
Non, mais il ne faut pas oublier que là, il y a cette possibilité aussi, parce que le public est là. Le public est de retour. Et au Vélodrome, quand on sait la ferveur, et ils adorent ça. Que ça soit un peu, pas compliqué, mais que ça soit accroché, qu'il y ait des petites embrouilles, des trucs comme ça, ils aiment ça. Et à Marseille, effectivement, surtout en début de saison, c'est possible. Et Sampaoli, en tout cas, s'en sert... magnifiquement bien ce début de saison.
Javier Prieto Santos.
Moi, je trouve
sur
que
ce point.
En fait, si on regarde l'effectif, on voit qu'il y a beaucoup de revanchards. Guendouzi, par exemple, on disait que c'était un méga crack. Arsenal, ça s'est terminé en eau de boudin. Lirola, c'était pareil. En Espagne, on disait que c'était un super latéral. À la Fiorentina, ça a été mi figue mi raisin. Alvaro, c'est la même chose. En fait, il y a Harit, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en revanche. Et j'ai l'impression que Sampaoli touche cette fibre-là. Et leur dit allez au combat, montrez qui vous êtes et qu'ils n'ont pas de filet de sécurité. Moi, ce que j'aime bien chez Sampaoli, c'est justement ça, qu'il n'y a pas de filet de sécurité. En Ligue 1, généralement, ça, on la voit la tactique. Le 4-4-2, on le voit très bien à la télé, on est assis sur notre canapé, on le voit très bien, ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de mouvement. Mais là, hier, moi, franchement, j'ai pris un plaisir monstre. Je ne suis pas du tout pour l'OM, mais ça bougeait, ça permutait. Il y avait des percées, des longs ballons, des petits ponts, des grands ponts. C'est les Marseillais, ils sont en feu, et c'est normal.
Mais il y a un flux, alors c'est évidemment bien décrit, Grégory Schneider, mais il y a un flux tout de même assez aléatoire, parce que hier c'était Monaco, mais peut-être que Monaco a fait un non-match aussi. Et puis à côté de ça, il y a quelques journées contre Bordeaux, Marseille est passé complètement à travers en marquant beaucoup de buts, certes, mais en encaissant beaucoup plus encore.
Alors sur ce match, ils m'ont vraiment donné l'impression de tomber justement dans une zone où ils pouvaient gérer. En fait, ils se sont dit, les mecs, on va pouvoir gérer, on va pouvoir mettre le pied sur le ballon parce qu'ils mènent 2-0 à la mi-temps de ce match-là, et c'est un peu trompeur. Parce qu'en fait, c'est sur les deux seules occasions qui marquent. T'as encore Payet qui met un caramel. Enfin, donc en fait, c'est pas le gérer un match ou attendre l'adversaire ou le contrer, c'est pas quelque chose dans laquelle ils savent vivre aujourd'hui.
Mais c'est impossible pour eux.
C'est pour l'instant.
La gestion, c'est impossible. La
gestion, c'est impossible. Alors ils sont. Après, moi, l'interrogation, c'est qu'ils sont condamnés, notamment derrière, à avoir de forts joueurs, je trouve. C'est-à-dire qu'ils sont souvent un contre un, ils sont assez exposés, et sur Balerdi. Tu peux quand même te poser la question. L'Espagnol, je me demande, Saliba, c'est un cador. D'accord. Bon, lui, on est OK. Mais je trouve qu'à un moment donné, peut-être que pour vivre à tombeau ouvert comme ça, il faut quand même une sacrée qualité individuelle derrière. Gardien compris, d'ailleurs.
Mais Grégory, moi, je trouve que Balerdi, on en parle, parce que l'année dernière, il y avait beaucoup de doutes sur lui, mais je trouve qu'il monte en puissance. Et hier, alors effectivement, ça,
Bordeaux, c'est pas
ça. Non, mais je trouve qu'il monte en puissance comme l'équipe, à l'image de l'équipe.
Sur Balerdi,
tout est facile ce qu'il fait.
Sur Balerdi, je trouve qu'il y a toujours les 2 mètres en trop par rapport à l'attaquant. Il y a toujours le. Non, mais je trouve qu'il n'est pas impactant. Je trouve que c'est un peu light. Voilà.
T'es un peu dur.
C'est pas parler d'un joueur de salon, mais on est
à la marge. D'accord. Non, justement, Jimmy Algerino, est-ce que les joueurs prennent, selon vous, du plaisir à jouer dans cette équipe avec cet état d'esprit et avec cette non-tactique? Enfin, la tactique, c'est qu'il n'y en a pas, quoi.
Moi, je pense qu'il y en a un qui doit prendre beaucoup de plaisir, je pense que c'est Payet. Parce qu'effectivement, il a des joueurs qui se dépouillent, alors pour lui, je ne sais pas, mais en tout cas, qui se dépouillent vraiment. Et lui, en tout cas, par rapport à la saison dernière, il peut gérer. On parlait tout à l'heure de gestion. Lui, je pense qu'il gère, Parce que de toute façon, en fonction de l'intensité que va mettre ses coéquipiers, en fonction aussi des ballons récupérés, lui, après derrière, il va pouvoir, et il est là pour ça aussi, avoir la possibilité de pouvoir jouer, d'être efficace. Et après, la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que Longoria est allé chercher Sampaoli pour ça. Parce qu'il y avait un déficit d'envie, de grinta, de dépenses physiques, qui a fait que Marseille est passé complètement à côté de la Ligue des Champions et de ces deux dernières saisons.
Je trouve, je trouve que ce que propose Marseille est par ailleurs raccord avec un truc, je le dis souvent ici, mais on finira pas de le redire, avec les cinq changements, c'est un nouveau football. Il faut quand même avoir ça en tête. Tu fais sortir trois joueurs rincés à l'heure de jeu, qui avaient une autonomie d'une heure parce que tu leur as demandé de faire les efforts comme un mec qui allait courir une heure et pas une heure et demie. Ce que je veux dire, c'est que ce haut volume énergétique qu'on a vu à l'Euro, j'en veux pour preuve les 11 buts contre son camp, les défenseurs sont pas plus maladroits, mais ils sont plus pressés, ça va plus vite. C'est pas... Donc ils sont quand même raccord avec cet esprit-là, je trouve. Tous les entraîneurs n'ont pas pris ce virage. Je pense que Sampaoli, alors il a dû naître dans sa tête, ça devait être une sorte de fantasme, mais faire valser une moitié d'équipe, ça veut dire toute la section offensive, hein, en gros. Ça veut dire que tu sors toute la section offensive.
Ça n'a pas été une réussite, voilà. D'ailleurs, ces changements-là.
Non, ça n'a pas, été une réussite, tout à fait. Mais voilà, il y a quand même au moins, il est en adéquation avec son temps.
Et tout cela invoque un équilibre fragile, et peut-être qu'on va voir si Sampaoli est aussi un véritable manager, parce que peut-être Javier Prieto Santos va-t-il devoir gérer Mandanda. Parce que là, hier, il s'est quand même passé quelque chose. Mandanda sur le banc, on parle d'une statue là, on parle d'un monument. C'est Notre-Dame de la Garde. Vous voyez, qu'on a mis sur le banc. Tu vois,
après, j'aurais.
Est-ce que Mandanda va l'accepter? Comment il va gérer ça, Sampaoli? Et tout l'équilibre dont on est en train de parler est très volatile, je trouve. Et le phénomène Mandanda peut-être faire exploser tout ça.
Moi, je pense que si Longoria s'est autant activé, parce qu'on a cité son nom il y a quelques secondes, c'est parce que Sampaoli, et on l'a dit encore une fois, son système de jeu est très énergivore. Donc hier, il y avait quand même Gerson, il y avait du banc à l'OM. Et les dernières saisons, il n'y avait pas de joueur capable de remplacer
un titulaire. Mais sur la gestion Mandanda.
Et sur Mandanda, c'est un gardien, et c'est toujours compliqué. Moi, ça me rappelle un peu le débat qu'il y a au PSG avec Navas et Donnarumma, mais Mandanda, est-ce qu'il n'a pas besoin d'être poussé un petit peu? Je trouve qu'il était un peu dans son confort.
À son âge? Justement,
à son âge, il a vraiment besoin d'être poussé, parce que j'ai l'impression que, justement, il n'avait pas de concurrence, il faisait des mauvais matchs, tout le monde s'en foutait, il faisait des bons matchs, tu continues. Mais en fait, j'ai l'impression que c'était le seul qui était un peu dans son confort, encore une fois. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que Paulo Lopez arrive. Après, est-ce que c'est un grand gardien? J'en suis pas sûr.
Jimmy, pour conclure, et après on marque une pause.
Après, moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de star dans l'équipe. Et le coup de Mandanda aussi, c'est de montrer que un gardien,
faut le taulier,
voilà, aujourd'hui tout le monde doit, je sais plus qui disait, pour jouer.
Il y a Payet quand même.
On peut se demander si Payet n'est pas en danger aussi. Hein.
Je trouve que... Peut-être pas en danger, mais en tout cas, le fait de pouvoir le remplacer.
Oui.
Ça, c'est l'avantage.
Si met Payet sur le banc, c'est pas le même état d'esprit que Mandanda. Hein. Alors là, peut très, très, très vite exploser. On marque une pause et on se retrouve avec nos experts pour parler maintenant du Paris Saint-Germain, qui va bien en championnat, hein, 4-0 contre Clermont, mais la Ligue des Champions arrive très vite. Ce sera mercredi, ce sera à suivre sur Europe 1 et ce sera à Bruges.
Europe 1 Sport, Lionel Rousseau.
Les grands débats sur l'antenne d'Europe 1 avant la grande rencontre de Ligue 1 Lyon-Strasbourg et puis notre nuit Djokovic face à Medvedev, la finale de l'US Open et peut-être le record historique, l'histoire pour Djokovic avec les 21 titres majeurs. On n'y est pas encore pour l'instant, on se pose un tout petit peu, on évoque le PSG. On aime bien, hein, c'est notre fonds de commerce, le Paris Saint-Germain, avec tout ce qui se passe. C'est vrai, l'arrivée de Messi notamment, Neymar, Mbappé qui finalement reste. Et puis la Ligue des Champions qui va animer nos soirées mercredi. Ce sera sur Europe 1, soirée exceptionnelle, autour de Bruges-PSG. Et peut-être enfin la MNM qui sera alignée. Enfin, les trois seront là, Messi, Neymar, sûr. Mbappé. Alors, sûr ou pas?
Sûr,
Jimmy Algérie.
Messi est rentré, Neymar aussi. Donc ils n'ont pas joué le match contre Clermont. Donc, obligatoirement. En plus, il y a quand même pas mal d'absents. Donc, Pochettino, je dirais, n'a pas le choix, autre choix que de les aligner.
Sinon, il va être obligé de se justifier, ça va pourrir l'ambiance. Un des trois qui n'est pas là ou qui ne joue pas.
Quelle est la raison? Est-ce qu'il existe une raison pour ne pas mettre les trois? Moi, je n'en vois pas, donc ils y seront, je pense, mercredi.
Et là, on va se régaler, alors, Grégory Schneider?
Eh ben non. Moi, je reste cash.
Je le savais. En posant la question, je savais. Je connaissais votre réponse.
Bien sûr.
Dites-nous pourquoi.
Mais parce qu'il est, il est écrit où que tu renforçais ton équipe quand tu faisais, quand tu faisais, quand tu faisais venir Messi. Moi, c'est toujours un petit peu pareil. Alors, ça va passer contre Bruges. Ça passera en... Mais c'est quelque chose qu'on a dit ici, jusqu'à preuve du contraire, sauf si, si je suis devenu... j'ai plus toute ma raison. Tu gagnes la Ligue des Champions avec Timo Werner et Kai Havertz. Avant ça, tu l'as gagné avec Salah. Et le final 8, on le met un peu de côté, ouais, parce que les équipes... Avant ça, tu gagnais avec Salah, Wijnaldum et Henderson. Donc voilà, ça, c'est la réalité du foot. Là, tu l'as gagné en juin dernier, en mai dernier, avec un gardien que tu sortais de Rennes. Hein. C'est ça, c'est le foot comme il est, je veux dire.
Tu ne gagnes plus avec une seule superstar.
Non, non, mais alors, trois, le problème, c'est que trois, si, c'est qui court, quelle est la partition des évoques. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention. J'ai toujours vu, par exemple, Neymar courir, en tout cas en Ligue des Champions. J'ai toujours vu. Enfin, souvent, les mecs se traînent une image qui est pas correcte par rapport à ce qu'ils font, objectivement. Mais il n'empêche qu'on parle de. Moi, sur ce que je crois voir de la Ligue des Champions et même de l'euro, c'est une affaire d'intensité, c'est une affaire de volume athlétique, c'est une affaire de même plus que de qualité technique ou de... Rappelez-moi quand même les trois Italiens qui jouaient devant. C'est des bons joueurs, mais on ne parle pas de superstars internationales.
C'est le collectif.
Voilà, c'est-à-dire que... Et Tuchel, c'était pareil avec Chelsea. Et c'est-à-dire que le foot est là. Alors, bien sûr, ça passera contre Bruges, je vous le dis tout de suite. Par contre, derrière Leipzig et City, on va commencer quand même peut-être à voir deux, trois trucs. Parce que Leipzig, il n'y a aucune raison de penser que c'est une équipe qui joue mieux d'année en année. Ils ont perdu Nagelsmann, mais bon. Et City, c'est le même monde. Donc là, on va commencer à voir un peu le... Moi, j'aimerais quand même, jusqu'ici, très franchement, on a vu, c'est la montée des marches à Cannes. Le foot, c'est le film. Et bien, la montée des marches, c'est pas le film. Voilà. Donc, on va, à un moment donné, tu vas quand même regarder ce qui se passe. Et j'ai quand même plus que hâte d'être devant le film. Voilà.
Le bon signal, peut-être, à Javier Prieto Santos, c'est que Messi, c'est quelqu'un alors, qui est évidemment très talentueux, ça, on n'a pas besoin de le préciser, mais qui aime bien jouer avec les autres, qui aime bien jouer au ballon. Moi, je trouve que même les quelques minutes qu'il a pu faire contre Reims, qui était plus un rythme de jubilé que d'un match de foot, non mais on sent qu'il a envie de jouer, de s'inscrire dans un collectif, ce qui n'est pas toujours le cas, pardon, avec Neymar et Mbappé. Mbappé, c'est souvent je pousse la balle et je cours très vite, plus vite que les autres, et puis Neymar, c'est j'essaie de me régaler la chic. Avec Messi, ça a peut-être changé les choses, et c'est ça peut-être la force du PSG cette saison.
Le meilleur Messi, on l'a vu avec Xavi... Iniesta, des joueurs qui tripotaient le ballon et qui étaient à son service, qui avait un énorme sens du collectif avec Busquets. Chez qu'à Barcelone, il exigeait que Busquets soit dans les taureaux avec lui. S'il n'y avait pas Busquets dans les exercices d'entraînement avec lui, il ne s'entraînait pas. Donc Busquets, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est très collectif. Et moi, ce qui est intéressant, et je suis d'accord avec ce qu'a dit Grégory, c'est que Messi est un joueur très très collectif, infiniment collectif. Le problème, c'est qu'il y a notre ami Mbappé qui surveille ses stats et qui a une tendance à oublier de regarder à droite ou à gauche pour faire une passe ou un centre dès qu'il le peut ou quand il le peut, quand il le faut. Et puis Neymar, je me pose moins de questions sur Neymar. Très sincèrement, je pense que lui, il était dans l'attente de jouer avec Messi. Ça s'est très bien passé avec lui. Et je pense qu'il y aura un duo qui va très vite... qui va très vite se recréer. Moi, le souci, c'est Mbappé. Ça peut être le fruit pourri dans ce trio.
Pour poser des questions, mais quid de l'intensité athlétique, quand même? Quid aux dernières nouvelles, Messi courait... Messi courait cette bande pas mal. Moi, j'ai vu Mbappé en Ligue 1 courir cette bande. Alors, Mbappé peut sans doute faire plus. J'ai vu Mbappé courir cette borne et demie dans des matchs en Ligue 1 contre Bordeaux. J'ai vu Messi aux dernières nouvelles, il courait cette bande pas mal. Là, on parle de Ligue des Champions où les mecs en avalent tous.
On peut tous utiliser Messi différemment aussi, Jimmy Algerino, pour que justement il puisse rayonner totalement, jouer avec les autres et être au service, je le dis entre guillemets, au service de Neymar et d'Mbappé pour leur donner des bons ballons. Ça peut être ça aussi.
Ah mais ça va être ça, parce que de toute façon, sur ses fulgurances, il va les faire. On sait qu'il les fait moins souvent, mais après, il va faire jouer l'équipe. Maintenant, pour répondre à Greg, c'est vrai qu'il y a l'aspect athlétique qui était et qui reste un doute pour le Paris Saint-Germain. Mais on voit quand même, par rapport aux autres années, que cette équipe bis, entre guillemets, n'est pas si mauvaise que ça. Il y a des joueurs comme Herrera qui sont plutôt pas mal. Des Danilo, des Gueye, Verratti. C'est un petit peu le souci parce qu'il est encore blessé. Mais un Neymar qui n'a pas été blessé depuis quasiment 4 mois, 5 mois, qui joue, qui a joué pour le Brésil. Donc c'est très intéressant pour le PSG. Alors effectivement, ça va peut-être manquer de... sur le plan athlétique. Mais Barcelone, avec les joueurs qu'ils avaient à l'époque, avec Messi autour de lui, il n'y avait pas cette capacité athlétique. Mais par contre, il y avait de l'évitement et de la vitesse. Donc on peut le retrouver peut-être avec le Paris Saint-Germain cette année.
Ça fera l'objet d'un débat peut-être mercredi, mais il y a une idée qui m'est venue comme ça. Et je vous permettrai de réfléchir pour éventuellement en parler ultérieurement, puisqu'on n'a plus le temps là, évidemment. Mais c'est pourquoi pas utiliser Messi comme Modric avec la Croatie, maintenant qu'il joue un petit peu plus bas. Il court moins, il est moins athlétique. Ouais, mais attendez, Modric, ça reste encore très efficace. Voilà.
Modric, aux dernières nouvelles, c'était 3 km de plus par match que Messi quand même. Enfin,
mais c'est beaucoup moins. Et puis c'est beaucoup plus bas maintenant sur le terrain. On marque une pause et on va aller évidemment suivre la rencontre en intégralité ce soir entre Lyon et Strasbourg.
Fan de foot, c'est l'heure du match Winamax.
Winamax, les meilleures cotes.
Ce soir, c'est le match des parieurs sur Europe 1. La rencontre qu'on vous propose pour cette 5e journée de Ligue 1, c'est Lyon qui reçoit au Groupama Stadium Strasbourg. Les coéquipiers d'Anthony Lopez sont favoris dans ce match. La cote pour une victoire de Lyon est à 1,55. Le match nul est à 4,50. Et la cote pour la victoire de Strasbourg est à 6,30. J'accueille notre premier auditeur qui habite à Lyon et qui est supporter des Gones. Bonsoir Johan.
Bonsoir l'équipe, et qui ne saute pas n'est pas lyonnais ce soir.
Eh ben écoute, merci de nous faire partager ta joie. Comment tu vois cette rencontre toi?
Moi je le vois 2-1 avec un but de Aouar et Shaqiri.
D'accord, alors la cote de la victoire de Lyon 2-1 est à 7,25. La cote du but d'Aouar est à 3,10 et la cote du but de Shaqiri est à 3,45. Je te remercie et je te retrouve à la mi-temps. J'accueille notre deuxième auditeur qui habite à Strasbourg. Bonsoir Angelo.
Bonsoir tout le monde. Alors, moi je vois 2 partout. En fait, le fait que je sois supporter de Strasbourg m'empêche de miser sur la défaite de Strasbourg. Donc, je vois bien un petit 2 partout. On gagne 2-1. Slimani rentre et égalise 2 partout. Slimani, notre bourreau.
D'accord. Donc, tu as fait le scénario. Super. La cote du match de but partout est à 12,50. Slimani, la cote du but de Slimani est à 2,45. Et toi,
Ouais, elle va le monter, celle-là. Ouais. Elle montera vu qu'il n'est pas titulaire.
Qui ça?
Non, Slimani n'est pas titulaire, donc quand il va rentrer, c'est là qu'il faut le miser.
Exactement, c'est ça. Exactement. S'il rentre, sa cote, elle est à 2,45, il marque un but. Et toi, Strasbourg, t'en penses quoi depuis le début de la saison?
Bon, on a un super trio offensif, ce que n'a pas pour l'instant Lyon. Et surtout, défensivement, on est moyen, et comme Lyon, c'est pour ça que je pense qu'il va avoir des buts.
Ok, super. Bah, écoutez, on se retrouve à la mi-temps, messieurs, pour faire un point sur vos pronostics dans ce match des parieurs.
C'était le match Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Europe 1. Europe 1 Sport, Lionel Rosso.
La grande soirée football et puis la nuit tennis. Hein, Djoko, on ne l'oublie pas, on va suivre ça intégralement sur l'antenne d'Europe 1. Mais d'abord, le match de Ligue 1 du dimanche soir entre Lyon et Strasbourg. Coup d'envoi imminent. On vous retrouve, Pascal Auclair, Anthony Perel pour les commentaires.
Ouais, effectivement, dans le brouillard, dans les fumigènes, Lionel Rudy Bouquet attend quelques instants avant que ces fumigènes se dissipent un petit peu. On oublierait presque qu'ils sont interdits, ces fumigènes, seulement voilà, on en a fait rentrer quand même et on est dans le brouillard. Cela dit, on espère assister à un beau match entre Lyonnais et Strasbourgeois, une formation lyonnaise qui attend toujours de remporter son premier succès de la saison à domicile. Ce sera peut-être ce soir face aux Alsaciens. On va rappeler très rapidement la composition des deux équipes alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Du côté lyonnaise, Lopez dans les buts avec une charnière Deneyer, Diomandé, Merson et Gusto en latéraux. En milieu de terrain avec Guimaraes, Thiago Mendes. Et devant, on va retrouver Aouar, Toko, Ekambi, Shaqiri qui effectue sa première apparition sous le maillot lyonnais et Dembélé en pointe.
Ouais, et en face, on va peut-être suivre cette première action strasbourgeoise. Ce sera finalement un 6 mètres. Les Strasbourgeois et Julien Stéphane qui se présentent à Lyon avec un 5-3-2. Matsels dans les buts. Anthony Cassis et Frédéric Gilbert du côté sur les pistons. En défense, cette défense à 5 dont la charnière centrale sera composée d'Alexander Djikou, Lucas Perrin, Maxime Le Marchand. Milieu à 3 avec Adrien Thomasson, Jean-Ragnar Bellegarde et Sandjin Persic. Et puis les deux attaquants, notre auditeur parlait d'une jolie triplette. Ils sont deux titulaires ce soir, Ludovic Ajorc et Kevin Gamero. C'est certainement Gamero qui va aller presser là sur la défense lyonnaise. On va espérer que le brouillard se dissipe. Il y a quand même pas mal de petites fumées devant nous.
Oui, c'est vrai qu'Anthony a dit sans doute parce qu'on ne voit strictement rien. On voit à peine les joueurs. Je ne sais pas comment Rudy Bucquet peut arbitrer dans ces conditions parce que nous, depuis la tribune de presse, pour l'instant, on voit vaguement un ballon qui s'envole. C'est vrai que c'est très compliqué quand même apparemment. C'est Toko Ekambi qui a récupéré ce ballon et peut-être la première action rapidement avortée du côté lyonnais. Long dégagement de Sels sur la tête d'Ajorc.
Ajorc qui a pris le dessus sur Denayer, mais les Lyonnais ont pu remettre le pied sur le ballon avec le jeune Malo Gusto sur le couloir droit qui a récupéré le ballon, qui a pu servir avec Serdane Shaqiri pour l'un de ses premiers ballons. Il a bien été pris là par les Strasbourgeois qui vont peut-être pouvoir attaquer avec Ludovic Ajorc. On est à 20 mètres début de Anthony Lopez. On décale à gauche sur Cassie, le centre de Cassie. C'est au niveau de la demi-lune de la surface de réparation et c'est récupéré par les Lyonnais, par Shaqiri qui dégage.
Et ça repart très rapidement du côté olympien, mais effectivement cette balle est récupérée tout aussi rapidement par les Alsaciens qui effectuent un très bon début de partie avec Thomasson. Thomasson qui essaye de se défaire de deux opposants et finalement ce sera une touche en faveur de l'Olympique Lyonnais. On rappelle que cette formation strasbourgeoise réussit plutôt bien à l'Olympique Lyonnais puisque sur les 7 derniers matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, eh bien Lyon n'a jamais perdu face aux Alsaciens. Et il faut remonter à 1979 pour trouver trace d'un succès des Strasbourgeois en terre lyonnaise. Donc ça fait une paye. Et c'est vrai qu'évidemment, au pronostic, l'Olympique Lyonnais est largement favori de cette rencontre. On joue depuis 2 minutes 30 au Groupama Stadium. 0-0 toujours entre Lyon et Strasbourg.
Ah, et ballon dans les pieds lyonnais. Là, on est dans la moitié de terrain strasbourgeoise avec un petit numéro d'Emerson là, qui a éliminé deux Strasbourgeois. Il a tenté de combiner avec Carl Toko Ekambi. Il y a eu la jambe, me semble-t-il, d'Alexander Djikou qui a avorté cette offensive lyonnaise. Mais les Lyonnais qui vont conserver le monopole du ballon avec une touche et ballon dans les mains d'Emerson. Il va attendre peut-être un petit peu de soutien voilà, qui est trouvé avec Bruno Guimaraes qui va remettre latéral italien finalement. On va ressortir derrière du côté lyonnais alors que le nuage là, de fumigène se dissipe un petit peu. On va commencer un petit peu à mieux voir ce qui se passe devant nos yeux. Début de match en tout cas plaisant. On va suivre ce ballon là, cette ouverture magnifique de Xherdan Shaqiri pour Toko Ekambi. La frappe, c'est à côté. Mais voilà, la première offensive, elle est pour les Lyonnais. Et ce sera finalement un 6 mètres. Mais super ouverture de Xherdan Shaqiri. Il était dans sa moitié de terrain. Et d'un subtil ballon du pied gauche, il a réussi à trouver Carl Toko Ekambi carrément dans la surface de réparation strasbourgeoise.
Oui, c'est vrai que c'est prometteur pour les supporters lyonnais qui se sont régalés de ce ballon distillé littéralement par le Suisse Shaqiri qui a déposé ce ballon dans les pieds de Toko Ekambi. Il a frappé en première intention Toko Ekambi, mais seulement ce ballon s'est échappé en dehors du cadre. Mais malgré tout, on sent quand même de bonnes intentions du côté lyonnais. On cherche surtout à jouer rapidement, à essayer de déstabiliser cette équipe alsacienne pour l'instant bien en place.
Ouais, Bourgeois 13e avant cette 5e journée, 4 points en 4 matchs. Ils ont eu des débuts difficiles, les Alsaciens, avec deux défaites contre Angers et Paris. Mais ça va un petit peu mieux, un nul et une victoire lors de la dernière journée, ce qui leur a permis de se replacer un petit peu. Alors, le ballon pour essayer de tenter de trouver Ajorc en pivot qui a pu remettre à Gamero. Gamero qui est au niveau de l'angle de la surface de réparation, qui va tenter de rejouer avec son compère de l'attaque. Mais le ballon était un petit peu approximatif. Ajorc n'a pas pu le contrôler. Ce sera une touche pour les Lyonnais, mais on est très très loin début de Matsels.
On va rappeler que sur le plan tactique, que ce soir l'Olympique Lyonnais joue en 4-2-3-1 alors que du côté alsacien c'est un classique 4-4-2 et c'est vrai que du côté strasbourgeois pour l'instant cette stratégie est plutôt la bonne puisqu'on voit des Lyonnais qui viennent buter assez régulièrement sur cette défense strasbourgeoise. Les Alsaciens justement on les retrouve avec une touche en leur faveur.
Gilbert qui va attendre un petit peu de soutien. Et ballon sur les pieds d'Ajorc qui va tenter de combiner, ça va être trop long. On joue depuis 5 minutes de jeu ici au Parc Ouel, toujours 0-0, club de formation.
Et juste un petit mot pour bien comprendre avec nos experts, et on retrouve évidemment très très vite nos envoyés spéciaux, Pascal Auclair et Anthony Perel, pour ce Lyon-Strasbourg, et s'il se passe quelque chose évidemment. Mais j'aimerais avoir le sentiment, à la fois de Javier Prieto Santos, Jimmy Algirino et Grégory Schneider, sur Shaqiri. Enfin, sur le recrutement récent d'ailleurs de Lyon, on pourrait y associer Boateng, mais Shaqiri, par exemple, est-ce que vous pensez que c'est un joueur qui peut vraiment faire la décision et qui peut être la star de l'OL, Javier Prieto Santos?
Je ne sais pas si ça peut être la star, mais je trouve que ça rajoute à une grosse de technicité au milieu de terrain. Avec Paqueta, c'était déjà mieux. Aouar, je trouve qu'il est un peu en sous-régime en ce moment. Et Shaqiri a de l'expérience. Il a un physique d'haltérophile, donc il tient bien sur ses jambes. Et surtout, je trouve que c'est un joueur très, très intelligent, qui peut amener du liant et on voit que l'attaque lyonnaise, ça n'a pas été son grand fort ces dernières années. Quoi,
il n'a pas réussi partout, il est passé, à part avec la sélection suisse, Jimmy Algirino, dans les clubs où il est passé, ça n'a jamais été le joueur majeur. C'est un très bon joueur, hein, d'accord, mais ça n'a jamais été le joueur majeur. Et on va ouvrir le micro de Jimmy, merci.
C'est un très très bon joueur. Moi, je trouve que c'est son efficacité. Il est très très bon sur les coups de pied arrêtés. mais pas mal de coups francs. C'est vrai que techniquement c'est intéressant, il travaille. Et donc c'est un joueur sur lequel on peut se reposer parce qu'il va être efficace et puis surtout il va apporter ce qu'on attend de lui. Donc ça c'est quand même assez intéressant et quand on voit les difficultés de l'Olympique Lyonnais, ça peut être très intéressant pour Lyon.
L'ambiance du Groupama Stadium, on vous retrouve Pascal Auclair, Anthony Perel pour ce Lyon-Strasbourg.
Oui, toujours 0-0, ça donne de la voix du côté des Badgones notamment, ils avaient fait grève lors de la dernière journée contre le Clermont Foot qui s'était soldé par un 3 partout. Là, ils donnent de la voix, c'est d'ailleurs eux qui étaient à l'origine des quelques fumigènes. Mais le match est un petit peu retombé en intensité depuis 2-3 minutes, on a eu 5 minutes assez folles. Là désormais, les Lyonnais gardent le ballon dans les pieds, on fait tourner en essayant de trouver une ouverture, peut-être ici avec un ballon en profondeur pour Dembélé qui va contrôler la surface, la frappe en pivot. Oh, quel but! Quel but de Dembélé! Le contrôle poitrine dans cette surface de réparation, enchaîné d'une reprise en demi-volée me semble-t-il, qui est venu se loger dans la lucarne gauche de Matsels, et les Lyonnais vont ouvrir le score, but sublime.
Absolument exceptionnel cette action de l'Olympique Lyonnais, surtout cette frappe dans la lucarne, littéralement Cels ne pouvait strictement rien, il s'est détendu tel un chat, mais ça ne suffisait pas, le ballon était dans la lucarne et voilà comment l'Olympique Lyonnais mène déjà 1-0 face aux Alsaciens de Strasbourg.
Ouais, en forme Dembélé, 5e match, 4 buts déjà pour lui qui revient d'après pourtant infructueux à l'Atlético de Madrid. Il a très peu joué mais il s'est imposé à la pointe de cette attaque lyonnaise, et alors qu'on voit le but au ralenti, il est sublime et quelle ouverture, il me semble que c'est Bruno Guimaraes, elle est quasi parfaite, le contrôle poitrine est parfait, la frappe en demi-volée est parfaite, tout est parfait sur cette ouverture du score lyonnaise.
Ah ouais, c'est la perfection intégrale et c'est vrai que c'est sans doute un des buts de ce début de saison avec effectivement ce ballon distillé par Bruno Guimaraes au coup d'envoi. On ne savait pas si le Brésilien serait bien titulaire parce qu'il avait joué il y a 48 heures seulement avec sa sélection nationale. Il était revenu très rapidement avec un avion privé affrété par l'Olympique Lyonnais. Eh bien, ils ont eu raison, les dirigeants olympiens, d'affréter ce ballon parce que Guimaraes, c'est lui qui a donc donné ce ballon de but à Dembélé. Il était loin d'être fait quand même ce but. Il a fallu donc tout le talent de Dembélé pour ouvrir le score. 1-0 donc en faveur de l'Olympique Lyonnais. On joue depuis 8 minutes.
Eh ben, on a les pieds strasbourgeois là, qui vont devoir se remettre un petit peu la tête à l'endroit. Le match, je venais juste de dire qu'il était retombé à l'intensité. Dembélé l'a réveillé d'un coup avec là, attention, un ballon en profondeur pour Gamero. Ça va être dégagé par Bruno Guimaraes dans le ciel de Lyon. Ballon finalement récupéré par les Strasbourgeois avec Ajorka qui n'a pas pu combiner avec Jean-Ignard Bellegarde. Et là, Malo Gusto qui a mal contrôlé ou alors mal appuyé sa passe, même si le ballon est à nouveau récupéré par les Lyonnais, par Thiago Mendes qui va jouer avec le jeune latéral qui va à nouveau perdre un ballon. Attention, ça fait deux de suite et peut-être une offensive là pour les Strasbourgeois avec Thomasson qui combine avec Bellegarde. C'est bien fait, on est aux abords de la surface de réparation Lunez, le centre qui est dégagé en catastrophe par Denayer. Ouh, ça joue, non, il y aura une faute sur Anthony Lopez. Ce ballon qui était au niveau de la barre transversale, il a été bousculé par Thomasson ou par Gamero, pardon, et du coup l'arbitre est intervenu. Ce sera une faute pour l'Olympique Lyonnais.
Ouais, il y a une sorte de up and under, on dirait ça au rugby, de Denayer qui a complètement raté son dégagement et finalement donc il a fallu que Lopez mette les deux points et sur la charge Rudy Buquet a logiquement sifflé coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais. Des joueurs rhodaniens qui mènent donc 1-0 depuis maintenant 1 minute 30, et c'est vrai que c'est quand même dur pour ces Alsaciens qui avaient plutôt bien débuté la partie. Ils étaient bien en place tactiquement, ils étaient assez peu inquiétés. Il y avait eu cette frappe de Toko Ekambi qui avait fui le cadre sur ce bon ballon adressé par Shaqiri. Puis voilà donc sur la première réelle occasion, c'est Dembélé qui ouvre le score. 1-0 en faveur des Lyonnais qui appuient sur l'accélérateur.
Ouais, 10 minutes de jeu ici, donc 1-0 pour Lyon. Et finalement, les deux situations lyonnaises viennent d'un même schéma. Un ballon d'un milieu de terrain en profondeur dans le dos de cette défense à 3 qui s'est à chaque fois conclue par une frappe. Celle de Toko n'était pas cadrée, mais celle de Dembélé était lumineuse. Ballon dans les pieds lyonnais justement avec Sinali Diomande qui va jouer avec Bruno Guimaraes qui est un petit peu dézonné pour servir Xherdan Shaqiri qui va attendre la montée de Malo Gusto. Voilà qui est fait, il peut centrer Malo Gusto, le centre, ça sera une tête, celle de Djikou, et ça va être un corner pour les Lyonnais qui poussent peut-être essayer d'aller marquer ce but du break. Ils ont pris un petit coup derrière la tête les Strasbourgeois. Puis disait qu'on parlait d'un bon début de match, malheureusement il a été contrecarré, les plans de Julien Stéphane ont été contrecarrés par ce but lyonnais qui arrive finalement très tôt.
Oui, c'est vrai que ce but prématuré eh bien change complètement les plans de Julien Stéphane. Et les Lyonnais, eux, se retrouvent dans la situation idéale, c'est-à-dire qu'ils sont devant au score. Ils vont pouvoir planter quelques contres qui peuvent être meurtriers parce qu'on le sait, devant, ça va très vite du côté olympien. Bref, pour l'instant, c'est le scénario idéal du côté lyonnais. Allez, le corner frappé. Et il est dégagé par la tête d'un joueur strasbourgeois et finalement Malo Gusto qui va tranquillement redonner derrière à son gardien Anthony Lopez qui cherche un partenaire démarqué.
Ouais, il a tout le temps là Anthony Lopez d'ajuster sa passe. Il n'y avait pas de gros pressing du côté strasbourgeois. Il a joué à gauche avec Emerson qui va jouer avec Bruno Guimaraes. On va faire tourner du côté lyonnais. Il n'y a pas de gros pressing actuellement des Alsaciens. Ballon dans les pieds de Malo Gusto. On vient de passer la ligne médiane. Il est pris là par Jean-Ragnar Bellegarde. Il va peut-être se rassurer, ressortir derrière. C'est vrai qu'il avait raté ses deux dernières passes, le jeune latéral droit lyonnais. Il a préféré assurer et jouer avec Denayer. Ballon dans les pieds de Guimaraes qui va jouer à gauche sur Toko Ekambi. Il va avoir l'appel d'Oussem Aouar. On combine là un jeu à trois pas mal avec Toko Ekambi, Aouar et Emerson. Et finalement, on va changer de côté et passer à droite sur Malo Gusto.
Ah, c'est vrai que ça combine bien pour l'instant du côté lyonnais, toujours en possession du ballon avec peut-être... un ballon adressé par Shaqiri. Voilà, il a essayé de centrer finalement. Ballon récupéré difficilement par les joueurs strasbourgeois. On essaye de se dégager. Il faut une intervention de M. Rudy Buquet pour donner un petit peu d'oxygène à cette formation alsacienne, assez rapidement débordée dès que les Lyonnais appuient sur l'accélérateur.
Un ballon de Gamero là en profondeur pour tenter de trouver Anthony Cassi dans son rôle de piston. Il va devoir faire les efforts. Mais Denayer était le plus rapide sur cette balle. Il a pu rejouer avec son portier Anthony Lopez. Ballon dans les pieds de Sinali Diomandé. On fait tourner du côté de l'Olympique Lyonnais. On va peut-être tenter d'attendre un appel et de rejouer comme on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire dans le dos. Voilà qui est fait avec Shaqiri qui va tenter de trouver Toko Ekambi. Il est pas hors jeu a priori, Toko Ekambi. Il est un petit peu excentré mais il va pénétrer dans cette surface de réparation. Toko Ekambi face à le marchand Ekambi, c'était Dembélé. Le centre était raté et le ballon va pouvoir être dégagé par les Strasbourgeois.
Oui, et c'est vrai qu'on commence à comprendre beaucoup mieux la stratégie olympienne. On joue clairement dans le dos de cette défense strasbourgeoise. Ça fait trois fois déjà que les joueurs alsaciens se font prendre comme ça. La première fois, c'était Toko Ekambi. Et la deuxième fois, il y a eu ce but magnifique de Dembélé. Mais clairement, on sent qu'il y a une volonté olympienne de trouver des failles en jouant par-dessus la défense strasbourgeoise. Pour l'instant, c'est une stratégie payante.
Ouais, puis cette défense, on la voit très bien devant nous, là, cette ligne de 5 des Strasbourgeois qui est au niveau de la ligne médiane. C'est vrai que c'est compliqué à étirer ce bloc et la solution de passer par-dessus est la bonne pour l'instant pour l'Olympique Lyonnais. Ballon, on est près de Guimaraes. On vient de passer la ligne médiane du côté de l'OL. Attention, l'interception des Strasbourgeois, même si bon retour justement là de Shaqiri qui avait complètement dézoné. Il était venu apporter son aide à ses compères en milieu de terrain. Et ballon finalement dans les pieds de Malo Gusto qui va ressortir derrière sur Jason Denayer.
Denayer qui fait tourner avec Diomandé. On est maintenant passé sur le côté gauche avec Emerson qui temporise, qui redonne à Diomandé. On attend que les Alsaciens se livrent davantage pour trouver des failles du côté lyonnais. Pour l'instant, le temps joue en faveur des joueurs lyonnais mais qui font quand même quelques maladresse notamment là en milieu de terrain. Il a fallu que Guimaraes étende ses grands compas pour ne pas perdre ce ballon qui aurait pu être dangereux pour Ajorc. Le ballon, on le retrouve dans les pieds des joueurs strasbourgeois. On a du mal au niveau de la relance, on a du mal à se dégager. Voilà peut-être un ballon encore récupéré. Non, finalement, ce sont toujours les Alsaciens qui vont pouvoir peut-être amorcer une contre-attaque. Intervention très propre de Malo Gusto et ballon récupéré par les Olympiens.
Ouais. 15 minutes de jeu, 1-0 pour Lyon face à Strasbourg.